à toutes et à tous, Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Bienvenue dans cette émission qui renaît de ses cendres. Bienvenue dans le Tour du Monde Libertaire, une émission animée par Jean-Pierre Lacanaille. Avec moi en studio, Serge et Nicolas. Bonjour Serge, bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Pierre.
Et en régie, bien sûr, micro ouvert, Monique. Bonjour Monique.
Bonjour.
Quel trac, mes amis, quel trac pour moi de relancer cette émission. L'angoisse m'étreint, la sueur perle. Serais-je à la hauteur de la tâche? Car enfin, ce n'est pas une petite affaire que de faire le tour d'un monde libertaire qui n'a ni lieu, ni maître, ni publicité, comme ici d'ailleurs, au point que je me demande s'il n'y aurait pas un lien. Puisqu'il faut plonger, plongeons-nous dans le sommaire de ce monde libertaire du mois d'avril, un monde libertaire qui fleure bon les châtaignes, l'oignon doux et le pélardon, accompagné d'un bon verre de chatus, puisqu'il est conçu, m'a-t-on dit, dans les Cévennes. Ce monde libertaire numéro 1849 d'avril 2023, que vous attendez et qui sera très bientôt dans vos boîtes aux lettres si vous êtes abonné, bande de petits vénards et de petites vénardes. Mais il sera aussi prochainement à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro Oberkamp, Foufille du Calvaire. Et dans d'autres endroits, comme par exemple la bibliothèque La Rue, la bibliothèque sociale, 10 rue Robert Planquette, dans le 18e arrondissement, métro Blanche, qui est ouverte les samedis après-midi. Mais vous êtes là, oreilles tendues, langue pendante, attendant fébrilement le sommaire. Alors, que trouve-t-on dans ces pages? D'abord, un très gros dossier nucléaire sur lequel nous prendrons le temps de parler tout à l'heure. Mais d'abord, en entrée, bien entendu, comme chaque mois, l'édito de l'ami Bernard, puis l'incontournable Jean-Marc Reynaud, dit le Reynaud féroce, et ses faits divers aussi féroces que lui. Ce mois-ci, le culte de la charogne. On trouve aussi Monsieur l'Homme, le dessin de Faber que j'aime beaucoup, mais que je n'en dirai rien. Et voilà. Alors j'en profite tout de même pour signaler que nous devons la couverture au dessinateur Moa. Dans ce ML donc, les pages d'histoire avec le troisième et dernier volet d'une série d'articles sur les industriels et la guerre. Ici, la collaboration des industriels avec le régime nazi. Elles sont nombreuses, nous dit Frédéric Pusset, ces grandes entreprises, à vouloir poser un voile sur leur passé trouble et pas très glorieux, et grâce auquel elles ont pu prospérer au sortir de la Seconde Guerre mondiale. La plupart d'entre elles ont poursuivi leurs activités et certaines sont même devenues aujourd'hui des multinationales. Histoire encore avec cet article de Daniel Pinos qui nous emmène à Cuba où, en janvier 1959, le régime du dictateur Batista était renversé par le mouvement du 26 juillet mené par Fidel Castro et Ernesto Guevara. Pour s'imposer, le régime castriste a fusillé dans les premiers mois de la Révolution plus de 3000 personnes. Hasta siempre, comandante. À l'international, l'Italie, l'Espagne et bien sûr la guerre en Ukraine. En Ukraine justement, où dès octobre 2022, au moins 1 million d'Ukrainiens auraient été déportés vers la Russie et les territoires occupés d'Ukraine. Parmi eux, des milliers d'enfants. Guerre d'extermination menée par la Russie contre l'Ukraine, massacre délibéré de civils, torture, viol. La déportation des enfants ukrainiens et leur adoption par les Russes est un crime de génocide selon la Convention de 1948. C'est un article signé Hélène Hernandez qui, entre autres choses, anime Femmes Libres sur cette antenne les mercredis à 18h30. L'Italie, ses sauces tomates et ses fascistes, possède un régime spécial d'incarcération pour les mafieux et les terroristes qui place les détenus en isolement sévère. Près de 750 derrière les barreaux en Italie sont placés sous le régime de détention unique et très restrictif du pays, connu sous le nom de 41 bis, dont l'anarchiste Alfredo Cospito, 55 ans. Ce mois-ci, le Monde Libertaire publie dans ses colonnes un communiqué de nos camarades de la FAI, Fédération Anarchiste Italienne, en soutien à Alfredo Cospito contre ce 41 bis et contre la criminalisation des luttes. Il publie aussi une lettre d'Alfredo Cospito. Espagne, enfin, où le bio, c'est bon. Ah, le créneau est juteux et nombre de gros producteurs se sont rués sur ce marché, comme Biosabor, géant de la production bio en Espagne, qui possède d'immenses terres où sont cultivés, sous serre en plastique, les légumes destinés à l'exportation dans toute l'Europe et que l'on retrouve dans les rayons des grandes enseignes. Biosabor se targue de respecter les cahiers des charges de la culture bio en oubliant l'impact produit sur le pompage de plus en plus important des nappes phréatiques dans les régions concernées par cette culture, en l'occurrence l'Andalousie et notamment autour d'Almeria. Des idées aussi dans ce monde libertaire d'avril, des idées pour nourrir les débats, nos réflexions intimes ou collectives. Les anarchistes, par exemple, et la défense nationale. Dit comme ça, évidemment, ça interpelle. Mais ne pas se poser la question de la défense nationale est une hypocrisie. C'est partir de l'idée que ce n'est pas une nécessité, nous dit Pierre Sommermeyer, pour lever le voile sur ce titre énigmatique. La suite de « Servitude mode d'emploi » par Louis Janovert. On peut dire que l'idée de servitude volontaire telle qu'elle s'impose dans notre société, est elle-même l'instrument du pouvoir et sert à transformer des chaînes réelles, objectives, en chaînes idéales, objets de discussion et d'arguties sans fin, dans une société où la classe révolutionnaire a disparu et où les partis d'opposition ne peuvent plus répondre de rien. La distinction légitimée, là aussi deuxième volet de l'article d'Aude Reynaud. Dans le monde de Macron, qui est aux Suisses celui qu'on nous impose, seul l'argent compte. Toutefois, cet argent ne se trouve pas sous le matelas des pauvres, contrairement à ce qu'ils aimeraient bien nous faire croire avec leurs discours accusateurs, leur rhétorique de crise qui s'éternise et s'enlise et leur politique de coupe budgétaire. L'argent se retrouve même, au contraire, de plus en plus dans les poches des riches, bravo. Il paraît que cette situation est dans l'ordre normal des choses et que je devrais reconnaître leur réussite au lieu de m'insurger. Encore un titre alléchant pour le monde libertaire, lire la Bible autrement. Qu'est-ce que ça vient faire dans un journal sans Dieu d'y mettre, me demanderez-vous ? Pourtant, on en a déjà parlé dans Le Monde Libertaire. En effet, dans le numéro de janvier dernier, Julien O partage avec nous sa lecture de la Bible. Il l'a lue à contre-cœur, ne résistant pas à des pressions amicales, nous dit-il. Il y a plein de façons de lire ce livre et je crois que notre compagnon est parti du mauvais pied, nous dit Pierre Sommermeyer. Il est, nous dit-il, comme quelqu'un qui se serait précipité dans une piscine sans savoir nager. Réflexion toujours, un article de Marie-Claire Calmus intitulé « Égalité et inclusion ». Comme le dit Jacques Rancière, l'égalité est au départ, mais on la perd de vue dans l'exercice multiple, collectif ou individuel, public ou privé du pouvoir. Par une lutte sur tous les terrains et de tous les instants, il faut donc la retrouver ou la rétablir. Dans les pages culture, un film, désordre, un mot qui, en allemand, peut signifier beaucoup de choses et pas seulement le contraire du calme et de l'ordre. Dans la production horlogère, il désigne le balancier, véritable cœur des mécanismes. Son réalisateur, Cyril Schaulin, nous explique « Lorsque je suis tombé sur la citation autobiographique dans laquelle Kropotkin décrit comment il est devenu anarchiste après avoir visité une vallée horlogère suisse et son mouvement anarchiste, j'ai tout de suite su que cela ferait partie du film aux côtés d'un personnage inspiré de ma propre grand-mère, une ouvrière d'usine horlogère qui participait aux émeutes dont il est question dans ce film. Un autre film, Annie Colère, de Blandine Lenoir. Un film dont nous parle Isabelle, du groupe Maximilien Luce de la FA. Nous sommes en France, en 1974, peu de temps avant la loi Veil. Annie est ouvrière, elle travaille dans une usine qui fabrique des matelas. Elle a deux enfants, mais ne souhaite pas en avoir plus lorsqu'elle se retrouve involontairement enceinte. Elle fait appel au MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui milite pour la légalisation du dit avortement. Dans ce ML, on trouve aussi les fiches de lecture avec un papier de Thierry Guy Labert sur un ouvrage que nous devons aux éditions Libertaires, Increvables anarchistes, un nouveau grand format, magnifique objet, richement illustré, rassemblant des textes le plus souvent introuvables, publié naguère en brochure ou dans les journaux libertaires, constituant, pour reprendre le sous-titre du livre, une histoire de l'anarchisme, des anarchistes et de leurs foutues idées. Léo, du groupe Kropotkin de la Fédération anarchiste, nous présente l'ouvrage de Karine Piriou, Politicon, tout ce qu'il faut savoir sur les idéologies qui ont façonné notre monde, à mettre dans toutes les mains, nous dit Léo. Jean-Marc Reynaud, lui, nous conseille de Philippe Equi et Marie Bonne, un hommage à Ramón Acín. Ce petit livre est un bonheur à l'état pur. Il nous raconte Ramón, il nous rend fiers d'être libertaires, il nous fait simplement rêver. Ah, Jean-Marc, rêver. Quelle belle idée que rêver. Et j'en ai perdu mes notes, voyez-vous. Enfin, Ramón Pino, de son côté, nous propose Généalogie du dieu argent de l'Observatoire situationniste. Argent, valeur, salariat, marchandise, en une quarantaine de pages, l'Observatoire situationniste décortique ses concepts. Et puis, comme toujours, aux dernières pages, la liste des groupes de l'AFA et les nouveautés de la librairie Publico, librairie où vous trouverez les ouvrages dont on cause dans le journal. Le monde est quand même bien fait, et le monde libertaire, encore mieux.
De mal baiser, je me dis il faut être ouf pour ne pas voir que c'est relié. S'il faut choisir ce qu'on absorbe, même en amour il faut de l'ordre. Et je ne veux plus m'envoyer du génital modifié, fié. Je fais l'amour bio avec brio. Je fais l'amour bio avec brio. Je fais l'amour bio. C'est mon credo. J'ai découvert une âme sœur. Devant cet homme, je suis comme une clone. J'ai l'écosystème en chaleur. Allô Kyoto, on trouve l'ozone. Il ne parle pas façon US. Oh my baby, do you love sex? Il me dit simplement salope. Ça met le fun dans la bio. Cop, 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 cop. Je fais l'amour bio avec brio. Je fais l'amour bio avec brio. Je fais l'amour bio avec brio. Je fais l'amour bio au soleil bio. C'est mon credo. Il me trouve le point ONG avec du latex sans nitrate. Ça explose le budget. Ça change tout quand on le tâte. Quand il me sert, je trouve ça bon. Ça me fait l'effet du même nom.
Bah oui, l'effet de serre. Bah oui, l'effet de serre.
Moi, citoyenne et responsable, je dis ce monde est formidable. Dable, 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 dable. Je fais l'amour bio. Credo.
Céline Cosimon sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. J'ai de la chance pour ma première à l'antenne puisque vous, Serge, Nicolas, Monique, avez contribué activement à la constitution de ce dossier Électron piège à con dans Le Monde Libertaire d'avril. Il y a même un article de toi, Serge, dans ce dossier. Tu seras donc mon invité avec Nicolas tout à l'heure à 19h. Ce qui ne t'empêche pas d'intervenir, tout comme Nicolas et Monique, cela va sans dire. Vous serez aussi à Marseille, on en a parlé tout à l'heure à la fin de l'émission précédente. Donc, week-end de mobilisation antinucléaire organisé par l'AFA au DAR, au DAR, le Centre Social Autogéré, 177 rue d'Aubagne.
127
rue d'Aubagne. Ça continue, et donc vendredi soir, samedi et dimanche. Hein. Et puis j'ai appris que ça allait être enregistré par Radio Libertaire. Donc on aura droit à la retransmission de...
Absolument, l'ensemble, ou en tout cas tous les conférences, les entretiens seront enregistrés et diffusé ultérieurement sur Radio Libertaire. On ne sait pas exactement à quelle heure, mais on fera de la publicité là-dessus.
Parfait. Donc voyons un peu en détail ce gros dossier avec, pour commencer, l'article de Stéphane Lhomme, un article important et très argumenté, nucléaire et électrification générale, l'impasse. Comme elle a tenté de le faire vainement au début des années 2000, l'industrie nucléaire essaye à nouveau d'instrumentaliser la crise climatique pour se présenter comme une solution pour sauver la planète. C'est vrai qu'en ce moment, tout tourne autour de ça. Le débat tourne beaucoup autour de ça. Hein. Puisque ça se réchauffe, utilisons une énergie non carbonée ou décarbonée pour nous éviter le grand barbecue collectif.
Oui, tous les dirigeants du monde veulent sauver la planète, y compris ils envoient des flics partout. Bon, c'est pour sauver la planète, ils vont sauver la planète. En tout cas, en ce qui concerne ce dossier, moi je vais passer la parole à Nicolas, notamment sur l'article Stéphane Lhomme, parce que si effectivement à l'origine, la plupart de ceux à qui on a proposé, qui sont sur ce dossier, c'est effectivement des gens qu'on a reçus plusieurs fois, parfois, dans son émission, mais en ce qui concerne l'organisation elle-même, c'est Nicolas qui s'en est occupé, donc je pense je préfère que ce soit lui qui réponde un peu éventuellement. Je rajouterai quelque chose.
Alors bon, peut-être pour l'organisation du dossier, il y a, alors effectivement, on a ouvert le carnet d'adresses, largement le carnet d'adresses de Trou Noir, parce qu'il y a différents contributeurs qui sont passés dans l'émission, donc à plusieurs reprises, éventuellement, comme Serge l'a signalé. Alors donc, entre autres, Stéphane Lhomme, dont tu évoquais l'article, qui est toujours directeur de l'Observatoire du nucléaire. Donc une des organisations indépendantes qui s'attache à observer, c'est-à-dire à évaluer les choses et à tenir un discours qui ne soit pas celui du pouvoir.
Peut-être il y a beaucoup d'informations, ouais. Hein, pour ceux qui, on peut le trouver très facilement sur Internet.
Non, c'est quand même étonnant ce discours et puis c'est toutes ces annonces là qu'on nous fait alors que en réalité la filière nucléaire pédale dans la choucroute tout de même puisque les EPR sont toujours pas sortis de terre. On en prévoit d'autres mais ceux qui étaient en chantier non seulement sont pas sortis de terre, coûtent un fric. Comment il dit Macron, un pognon de dingue.
Hein,
c'est ouais, ça, un c'est pognon ça. De dingue. Et en plus avec des malfaçons. Mm-hmm. Donc,
c'est
comme la réforme des retraites, il se tire une balle dans le deuxième pied.
Oui, mais enfin, quel est l'objectif ?
Ça va coûter plus cher, hein.
L'objectif, si c'est de faire du fric, ça va marcher pour un certain nombre de gens. Il y a du fric énorme à se faire, et c'est pas pour rien que ça a été reconnu au niveau... Enfin, ils ont réussi à le faire reconnaître, magouille, au niveau européen, comme quelque chose de vert. Ça veut dire tout simplement qu'ils vont pouvoir faire des emprunts à très bas taux, donc à se faire un fric de max. Tu en parlais tout à l'heure, du ruissellement du fric dans les poches des riches.
Oui.
Bon, enfin, je repasse la parole, mais je pense que c'est ça la motivation. Bien entendu qu'ils vont pas sauver la planète, ils en ont rien à foutre en plus.
Mais ce qui est très étonnant, c'est-à-dire pour ceux qui disons, s'intéressent à l'environnement, à ce genre de cause depuis, de façon assez ancienne, je dirais qu'il y a 20-30 ans, le nucléaire, c'était quelque chose d'absolument infréquentable. Quoi. C'était absolument incompatible avec tout souci de préservation de l'environnement, de l'écologie, des choses comme ça. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, la grande catastrophe climatique... a émergé comme sujet et discours, et tout d'un coup, le nucléaire est devenu le recours possible. Alors, on peut douter un peu, mais quand on fait le petit raccourci historique, on tombe là-dessus. C'est-à-dire que le nucléaire est devenu fréquentable, certains prétendent que ça serait décarboné, donc que ça peut sauver le climat. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui doivent être totalement ahuris, mais étonnamment, il y a plein de gens qui se disent favorables à l'environnement, des choses comme ça, qui acceptent ce discours-là et ont tendance à le reprendre.
Comme une sorte de moindre mal.
Comme une sorte de moindre mal, oui, sans trop voir la mystification qu'il y a derrière.
Ouais. En fait, c'est peut-être plus la société nucléaire que le nucléaire lui-même qu'on défend là. Parce que c'est le nucléaire, c'est la solution pour que cette société continue à consommer n'importe comment, à ce qu'on continue à produire des bagnoles en veux-tu en voilà. Finalement, c'est ça l'idée. Et puis la police que nécessite le nucléaire et la surveillance des sites, bien entendu.
Dans les premières manifs anti-nucléaires dont je faisais partie, dès ce moment-là, on disait État nucléaire, État policier. Et on faisait tout à fait le lien entre ces deux choses-là. Donc, effectivement, ils utilisent en ce moment effectivement le climat. Il faut quand même rappeler qu'ils nous ont vendu ça au début. C'était le choc pétrolier, donc c'était tout électrique. J'ai retrouvé les pubs à l'époque. C'est reparti pour le tout électrique, d'où d'ailleurs tout à fait l'actualité de la couverture du Monde Libertaire. Je laisse aux gens qui le liront. Elle est vraiment très bien parce que ça axe là-dessus. Et effectivement, comme tu l'as dit, pour continuer à consommer, à produire, etc., il va falloir de plus en plus d'électricité. Donc la seule solution, évidemment, c'est le nucléaire. Et il nous avait fait exactement le même coup en 1974. Moi, ce qui est en train de se mettre en place sur le nucléaire, j'appelle ça le plan Messmer 2. Voilà, c'était le plan Messmer en 1974, aujourd'hui c'est le plan Messmer 2. Et il y a tout un tas de saloperies qui se passent, qui ne sont pas dans le texte là, parce que c'est en train de se faire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, où le nucléaire, il y aura tous les droits. Plus de loi littorale, plus on pourra exproprier les gens comme on veut, etc. Je ne détaille pas parce qu'on fera certainement une émission là-dessus.
De toute façon, on va avoir l'occasion d'y revenir. Il y a un autre article dans le Monde Libertaire signé Annie et Pierre Péguin qui nous rappelle... c'est un peu une liste des raisons essentielles pour appeler à l'arrêt du nucléaire. Il est suivi d'un papier de Jean Reveste qui sera ce week-end à Marseille, porte-parole du collectif anti-nucléaire du Vaucluse. On va y revenir tout à l'heure parce qu'il a écrit un deuxième article dans le Monde Libertaire. Sujet incontournable, bien sûr, quand on parle du nucléaire, le nucléaire... militaire. Christian du groupe Gaston Couté nous offre un article où l'on apprend qu'il n'est guère facile de dénicher les informations fiables et régulières sur ce sujet majeur, le nucléaire militaire. Les sommes exactes destinées à la fabrication des armes en France, au moins, sont classifiées et ne figurent pas dans les documents budgétaires. Voilà. Et puis un article que nous devons à nos camarades d'Humanita Nova, l'équivalent du Monde Libertaire en Italie. Un numéro du 19 octobre dernier, signé Marta, les centrales, à propos des centrales nucléaires ukrainiennes pendant cette terrible guerre. Patrick de Dieppe nous offre son regard noir d'ancien technicien EDF sur le nucléaire et son monde. Un article où l'on apprend que les syndicats ont joué et jouent un rôle un peu trouble. Article intéressant. Nestor Potkin nous parle des électrovores et du monde merveilleux. On en parlait il y a deux minutes. Ce monde merveilleux où on pourra s'égayer dans les embouteillages, mais sans polluer. Voir. Jean-Luc Pasquinet, membre du comité Stop Nos Gens, nous conte l'histoire de ce comité et rend hommage à tous ceux et celles qui y ont contribué. Et puis, donc, je disais, Jean Revest, ce second article dans le dossier du Monde Libertaire, Tricastin, au cœur du plus grand complexe nucléaro-chimique d'Europe. C'est où ? C'est chez nous !
C'est chez nous !
Eh oui, parce que la France, vous savez... Alors, c'est dans la basse vallée du Rhône, c'est à 65 km d'Avignon et 70 km de Valence, au pays de la lavande. Alors, le Tricastin, ça sort pas du chapeau, ça, hein,
C'est un des plus anciens sites français, et ça a une de ses particularités, c'est que il mélange des installations qui sont destinées à une production plutôt militaire, d'autres plutôt civiles.
Il y a
des centres de recherche et tout ça. Ouais. C'est un site qui est pressenti pour accueillir les nouveaux EPR promis par les lois en cours d'élaboration. C'est un site où il y a du stockage de plein de choses. Qui est finalement dans une zone à risque sismique, c'est pas la Turquie, mais quand même ça peut bouger. Mmh. Il y a des choses qui sont déjà arrivées. Il y a un canal, par exemple.
C'était un argument d'ailleurs qui, à l'époque de la lutte contre le surgénérateur de Creys-Malville, aussi ces histoires de risque potentiel de tremblement de terre. C'est une région sismiquement douteuse.
Voilà, ça bouge un peu, c'est arrivé, hein, c'est déjà arrivé, même récemment, il y a eu un petit tremblement de terre centré sur les Alpes de Haute-Provence, qui n'est pas si loin que ça. C'est un site très particulier qui concentre énormément d'installations diverses, de stockage, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour en faire quelque chose de détestable. Il y a tout de même... Dans les risques représentés par le site, et ce qui est bien dans l'article de Jean Revest, c'est qu'il fait l'historique de ce site, de comment il s'est constitué petit à petit. Il est en fait un peu en contrebas d'un canal qui, si jamais une vanne venait à se rompre, ça pourrait provoquer des inondations assez conséquentes.
Ouais.
Donc voilà, un risque réel qui, semble-t-il, il y a eu des alertes autour de ça.
Et sur lesquelles, évidemment, l'information est extrêmement filtrée.
L'information, comme toujours, est extrêmement filtrée. Tout va bien.
Voire mensongère.
Tout va bien.
Tout va bien.
Oui, je voudrais juste dire par rapport à cet article, il y a une photo qui est intéressante, parce qu'on voit qu'au-delà, on dit, bon, les gens qui voient ça de loin, le nucléaire, bon, d'accord, on pense pas aux militaires en général, bon, c'est les centrales. Bon. Or, en fait, c'est pas que les centrales, on le voit tout à bien sur la photo. Et donc, je voudrais quand même souligner quelque chose au passage. Le point de vue officiel, on appelle ça les INB, c'est-à-dire installations nucléaires de base. Il y en a des centaines. Il n'y a pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les réacteurs. Deuxièmement, il y en a dont on ne connaît pas le nombre, c'est les IN, voilà. Les auditeurs, ils peuvent regarder ce que nous montrent.
Acheter le Monde Libertaire pour voir la photo.
Ceux qui nous regardent à la télévision, donc nous avons l'image là.
Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus des INB, il y a les INBS. Et toi qui suis très près du nucléaire, c'est quoi les INBS ? Ben, c'est les installations nucléaires de base secrètes. C'est-à-dire, on ne sait pas combien il y en a. C'est tout l'aspect militaire et il y en a un paquet aussi.
Voilà, dans cette région-là.
Et ailleurs aussi.
Est-ce que je commente un petit peu la photo vue d'avion, c'est-à-dire qu'effectivement on voit.
Donc là, on aperçoit c'est une espèce d'énorme site qui semble être un site industriel.
Complètement. Alors, au fond de l'image, on voit les quelques cheminées de refroidissement qui sont un peu l'icône de la centrale nucléaire. Mmh. Mais on voit que là, elles sont petites et minoritaires par rapport aux différentes installations du site. Sur la droite de notre image, il y a le canal Donzère-Mondragon, donc, qui sert aussi refroidissement de différentes installations. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en bordure immédiate de la photo, on a des cultures qui semblent être des cultures de blé, de maïs, de je sais pas quoi, mais enfin, des choses qui servent à l'alimentation des bêtes ou des hommes, on sait pas. Mais voilà, en tout cas...
L'important, c'est que ce soit pas OGM.
Voilà. Et ce qu'on sait aussi, c'est que, alors, quand on parle nucléaire et danger du nucléaire, on pense à l'explosion, au flash nucléaire et tout ça. Ce qui est certain aussi, même si c'est très minoré par les différentes autorités du nucléaire, c'est qu'il y a aussi des rejets par les cheminées de refroidissement, par tout un tas de façon plus minime, mais ce sont des rejets qui s'accumulent. Donc on peut imaginer que dans ces très jolis champs de culture à proximité, il y a des petites choses qui retombent et qui... Ouais. Transite dans les organismes.
Une photo de ce site à retrouver dans, dans le monde libertaire hein, de, du mois.
Tu me laisses 30 secondes, vas-y, vas-y, vas-y. C'est sur le sujet, c'est pas long du tout, c'est en liaison, c'est en train de se passer à l'Assemblée nationale, justement c'est lié un peu à ce qu'on voit là, on voit bien qu'il y a des tas d'installations en plus des centrales. Bon, jusqu'à présent, il fallait, d'accord, il finissait par avoir l'accord, il fallait avoir la tel raccord, il y a tout un tas de cheminements avant qu'on puisse lancer un réacteur. Maintenant, ils touchent pas au réacteur, mais toutes ces installations-là, ils vont pouvoir les lancer avant d'avoir l'accord de lancer les réacteurs. Bon, on pense aux EPR2 là, qui vont lancer. Donc c'est une magouille absolument extraordinaire. Alors qu'on ne vient pas nous parler de loi et de démocratie, quoi, parce que les lois, ils s'assoient dessus. Le nucléaire, ils s'assoient complètement dessus.
Oui, il n'y a même pas besoin de 49-3.
Alors, il n'y en a rien. De toute façon, le nucléaire n'a jamais été discuté ailleurs qu'au niveau des nucléocrates et puis des politiques à leur botte.
Bon, enfin, de toute façon, vous savez que en cas d'accident, il nous reste tout de même la résilience.
Ah
la et la résilience.
Résilions-nous ensemble, mais ne nous résignons pas.
Et la résilience, on en parle dans ce dossier. Un truc très à la mode, donc, cette résilience.
Ah, oui.
C'est Thierry Ribaud, chercheur en sciences sociales, qui nous parle, pour ce qui est de Fukushima, d'un procédé incantatoire. Et puis, on a un autre article aussi, alors signé Jean-Luc Sky, qui donne la parole aux résistants et malfaiteurs de Bure, qui s'opposent depuis 30 ans à l'État nucléocrate. Bure, cette fameuse poubelle nucléaire. Il y a une actualité, je crois, à propos de Bure, non ? Une manifestation au mois de juin ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une manifestation qui était prévue en juin, qui est toujours prévue début juin, et compte tenu un peu des petits éléments que j'ai donnés, là, et mon indignation qui n'est pas fausse, quoi. Et pourtant, j'en ai vu dans un État soi-disant démocratique, ils ont décidé que cette manifestation, ce grand rassemblement aura lieu à Paris le 3 juin. Voilà, donc il y aura des informations qui seront données par Radio Libertaire et ailleurs, et ils disent que ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser passer ça, tout le monde est concerné. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont dit on ne va pas faire localiser ça uniquement à Bure. Voilà, c'est ça l'actualité.
Bon, très bien. Donc on aura l'occasion d'en reparler.
Absolument.
Mais en tout cas, voilà. Bure, c'est vrai que c'est important parce qu'on parle des installations, on parle du Tricastin, on parle des EPR, des centrales nucléaires. Mais c'est comme nos poubelles domestiques d'ailleurs. On ne se demande pas où elles vont. Hein, voilà. Et puis, donc, ah oui. Alors, un autre article sur lequel je voudrais qu'on s'arrête, peut-être, c'est un article de Jean-Marc Royer, qui sera lui aussi à Marseille ce week-end, et qui nous explique dans un entretien pourquoi il pense que l'industrie nucléaire est une banalisation radicale du mal. Pour lui, le nucléaire doit être compris comme un crime contre l'humanité et un écocide. En faire l'impasse serait une grave erreur politique, philosophique et théorique. Il est l'auteur, entre autres, de Le Monde comme projet Manhattan, que pas mal de gens ont dû feuilleter au minimum. Quelque chose, oui,
peut-être Nicolas. Deux mots là-dessus. Donc, effectivement, Jean-Marc Royer a écrit ce livre qui est une somme documentaire, Le Monde comme projet Manhattan, où il reprend l'historique de l'invention de la bombe atomique aux États-Unis pendant les années 40. Il a eu accès à des éléments, des sources d'archives du Congrès américain, c'est-à-dire vraiment des archives officielles américaines. Et ce qu'il explique, c'est que. Tout l'argumentaire qui a été donné sur le fait que les États-Unis ont été obligés de créer la bombe pour gagner la guerre, pour forcer la main au Japon, ainsi de suite, tout ça a été bidon, et que en fait, c'est un vrai projet. L'idée, c'était vraiment de créer cette arme, et que c'est finalement une espèce de vrai projet de société qu'il y a derrière cette création de l'arme atomique. Après cette arme, est venu le nucléaire civil, qui est comme une sorte de cache-sexe comme ça, du fait que l'atome serait utile à la société. Mais à l'origine, et c'est ce que décrit très bien Jean-Marc Royer dans ce livre, c'est vraiment un projet monstrueux, selon lui, et de crime contre l'humanité.
Ouais. Juste un mot, excuse-moi.
Vas-y.
Et ce qui montre bien dans le livre, c'est que c'est une alliance. C'est ça qui est très grave, parce que on continue à être dans cette situation-là. Il y a une alliance entre les industriels. Alors quand on regarde les industriels qu'il y avait dans le projet Manhattan, on retrouve les grosses boîtes américaines qui ont fait Fleurus et ils ont commencé à faire la main. Des industriels, des scientifiques. Beaucoup de scientifiques. Il y en a très peu qui ont refusé de participer à ça. Et évidemment, les politiques et les militaires, évidemment, ça va de soi. Et tous ces braves gens, c'est ça qui mène le monde encore aujourd'hui sur le nucléaire. Et malheureusement, il n'y a pas que sur le nucléaire. Voilà. Il voilà, le montre bien dans son bouquin.
Ah oui, oui, il nous dit.
Et dans son article, je pense.
Oui, il nous dit avec le nucléaire, nous touchons à ce qui caractérise le plus profondément la civilisation capitaliste thermo-industrielle, c'est-à-dire son essence, la mort. Voilà. On ne peut pas être plus clair. Pour cet article de Jean-Marc Royer dans le Monde Libertaire du mois d'avril. Et puis, toujours dans ce dossier, l'annonce d'une journée électron-piège à con à Rouen le 8 avril à partir de 14h30 à la Maison des Associations et de la Solidarité. Et en particulier l'intervention de ce fameux Patrick de Dieppe et son regard noir de technicien EDF sur le nucléaire et son monde. Donc ce sera à Rouen le 8 avril à partir de 14h30, Maison des Associations et de la Solidarité, organisée par la Fédération anarchiste également, le groupe de Rouen. Voilà, nous sommes. Finalement, j'avais peur d'être en retard et puis on est en avance, mais c'est pas grave. On va écouter tout de suite Yvan Dotin sur Radio Libertaire 89.4.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout, ne changeons rien. D'après nous, le déluge, ce n'est pas pour demain.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on se fait du bien. C'est lui qu'on laisse au juge. C'est un métier de chien. On sème la misère, on récolte du blé. Pour s'envoyer en l'air, on va se la sauter. Dans des places boursières, toutes au bord de craquer, notre couche d'ozone et nos poumons d'acier parlent dans l'hygiaphone, histoire de se parler de la chute des pommes et de la gravité.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout ne changeons rien, on use et on abuse de ceux qui meurent de faim.
Tout va mal, tout va mal.
On est dans l'inhumain, notre dernier refuge, à l'abri du besoin. La manne financière, crédit plus intérêt, du système bancaire, pour mieux nous endetter, nous plonge dans l'enfer de la tonte à Walter.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout ne changeons rien. Le nucléaire infuse comme un poil dans la main.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on sent que ça vient. Le radeau, la méduse et le mot de la fin. Changeons rien, d'après nous le déluge, ce n'est pas pour demain.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on se fait du bien, c'est lui qu'on laisse juge, c'est un métier de chien.
Tout va mal, tout va mal.
Surtout ne changeons rien, le nucléaire infuse comme un poil dans la main.
Tout va mal, tout va mal.
Mais on sent que ça vient. Le radeau, la méduse et le mot de la fin.
Radio Libertaire 89.4, Yvan Dotin, tout va mal, tout va mal. Pages 44 et 45 du Monde Libertaire de ce mois d'avril, un poème de Christophe Salus et un article de Nestor Potkin qui se demande si les écolos doivent briller dans le noir. Certains écolos espèrent en effet nous sauver, comme on le disait tout à l'heure, grâce au nucléaire, comme c'est le cas de Jean-Claude Jancovici. Alors figurez-vous que, oh joie inénarrable, miracle de Noël, qu'ai-je trouvé dans mes chaussons déposés religieusement sous le sapin de ce Noël 2022 ? La bande dessinée de Christophe Blain et Jean-Claude Jancovici. Son titre, Le monde sans fin. Gasp, comme aurait dit le regretté Gottlieb. Une belle couverture qui fleurbonce à fin du monde pour cause d'étouffement et hop, mon stupide penchant à préférer la nature sauvage aux zones industrielles m'invite à m'immerger dans l'ouvrage. D'abord, qui sont les auteurs du livre le plus vendu en 2022 ? Christophe Blain, auteur de bande dessinée, dessinateur talentueux, je n'ai rien de plus à en dire dans cette chronique. Et Jean-Claude Jancovici, c'est lui qui nous occupe, ou devrais-je dire, nous préoccupe. Découvrons la bande dessinée et son prologue, la rencontre des deux auteurs et le portrait de notre Jean-Claude brossé par Christophe, visiblement impressionné par le grand homme. Il apparaît, page 6, main sur les hanches, bien planté sur ses deux jambes, les manches retroussées. Je suis scotché. Est-ce une lanterne ? Est-ce une vessie ? Non, c'est Jean-Claude Jancovici. Il est là, devant moi, tout auréolé de son curriculum. Je cite Christophe Blain. Polytechnicien, mec qui n'arrête jamais, énergie inépuisable, regard de vieux cow-boy à qui on ne la fait pas, sportif de la mort. Essayiste, militant infatigable, conférencier vulgarisateur, adore faire des blagues et bousculer son auditoire, petit sourire narquois de gamin farceur, mais rire franc de bon vivant généreux, bref, c'est une sorte de surhomme. Un gars qui a fait Polytechnique, mais qui n'a pas pris la route droite qui le mènerait aux grandes boîtes. Non, tu vois, du coup, lui, c'est une sorte de saltimbanque, tu vois, vadrouilleur, aventurier, quoi, en mode chemin de traverse, enfin, trop, quoi. Le type qui a pas peur des défis, qui n'hésite pas à sortir de sa zone de confort. Et en plus, super open, tu vois. Alors, bande d'anarchistes mal rasés, poseurs de bombes. Alors, bande d'anarchistes mal épilés, poseuses de bombes. Vous êtes sur le cul ? Oui, 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 alléluia! Il est là, le sauveur suprême, le dieu, le César, le tribun. Dans cette bande dessinée, Jean-Claude, avec son talent de vulgarisateur, nous explique l'énergie, ce que c'est vraiment. On comprend mieux ce qu'est le climat, les phénomènes climatiques, le réchauffement, dérèglement, tout ça. Mais surtout, on découvre que le nucléaire, c'est pas si dangereux que ça. Et que c'est LA solution si on veut continuer à consommer comme des tabanards sans finir comme une merguez à la fête de l'humain. Le problème du nucléaire, c'est qu'il nous fait peur. C'est tout. Mais oui, mes petits anarcho-trouillards. Mais oui, mes petites anarcho-trouillardes. Heureusement, Maître Jancovici va nous aider à vaincre la peur sur les 45 dernières pages. Comment, me demanderez-vous ? Eh bien, il convient simplement d'expliquer quels sont les risques réels comparés aux bénéfices. Car, oui, il peut y avoir des bénéfices à risquer la vie sur un territoire plus ou moins grand, avec dessus ces millions d'êtres humains, d'animaux, etc. Il peut y avoir des bénéfices à empoisonner des coins de cette terre pour des milliers d'années, du moment que c'est pour nous éviter LA grosse catastrophe, le barbecue géant. Et puis n'oublions pas que nous sommes français. Jean-Claude nous explique posément qu'en France, nous avons fait tout ce qu'il fallait pour que Tchernobyl et Fukushima soient impossibles. Et c'est vrai, amis auditeurs, amis auditrices, c'est vrai que le génie français a toujours un temps d'avance sur les étrangers barbares, hirsutes et analphabètes. Le souvenir de la ligne Maginot et du Concorde sont là pour nous le rappeler. Mais alors, demande le dessinateur, Tchernobyl et Fukushima n'ont eu que des répercussions locales ? Plus important que les conséquences locales est l'impact psychologique, planétaire celui-là. lui répond le très sage Jean-Claude. Je vous invite à méditer cette phrase. Plus loin, il nous explique aussi que les Allemands, en renonçant à leur parc nucléaire, ont émis 800 millions de tonnes de CO2 à la fin 2021 avec le charbon. Ah ben alors que je me dis, c'est les Boches. Diantre, faudra-t-il envahir les Prussiens pour sauver la planète? Plus loin, un autre argument, certes plus proche du bar PMU que de la sphère scientifique, mais qui reste un argument de poids. Vous allez voir ce que vous allez voir. Attention, je vous le donne en mille. Je cite, et vous pouvez noter, « La voiture fait des morts, est-ce que tu arrêtes la voiture ?» Je répète, « La voiture fait des morts, est-ce que tu arrêtes la voiture ?» Oui, c'est à ça qu'on les reconnaît. Je cite Maître Jean-Claude, « Quand tu fais un sondage d'opinion, les gens ont plus peur des déchets nucléaires qui n'ont jamais tué personne que des accidents domestiques, cardiovasculaires et de la voiture. » On dirait du Macron. En somme, cette bande dessinée, c'est le contraire de la baignade, tu vois. Au début, elle est bonne, mais après, elle est froide. Elle te met les pouettes-pouettes avec le réchauffement pour te refiler le nucléaire. Coucou Philippe Pelletier, qui sera ce week-end à Marseille. Vous me connaissez, j'ai voulu en savoir plus sur ce bienfaiteur de l'humanité qu'est Jean-Claude Jancovici. Et j'ai découvert son association. Shift Project. En français, le projet de changement. Du Macron, vous dis-je. Alors là, les gars et les filles, c'est autre chose que les anards, hein, c'est moi qui vous le dis. The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Je vous vois venir, bande de contre-tout. Oui, c'est conserver le système capitaliste, basé sur la propriété et l'exploitation, mais soi-disant propre, le capitalisme vert en somme. Comme d'habitude, vous voyez le mal partout. Voyez-vous, mes amis, il s'agit simplement d'une association, loi 1901, d'intérêt général, guidée par l'exigence de la rigueur scientifique, dont la mission consiste à éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique. Elle est financée par Vinci, EDF, Bouygues, BNT, BNP Paribas, Veolia, et alors
Total.
Total. Le monde sans fin, Jean-Claude Jancovici, Christophe Blain, un livre qui n'est pas en vente à Publico. Steve Waring.
Elle m'a dit, dame la télé, il n'y a aucun danger, mais moi, je n'y crois pas. Car mon copain, le physicien, voilà ce qu'il m'a expliqué. Une poignée de plutonium, ça tue 1 million de bonhommes. Et tu sais, du plutonium, on en a déjà des tonnes. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire. J'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires. D'après monsieur le gouvernement, c'est pour faire du courant, mais moi, je méfie de ça, car mon copain le physicien, il m'a tout expliqué. Comment tous les militaires veulent des centrales nucléaires, car ça produit des matières pour faire les bombes atomiques super. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire, j'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires. Messieurs les journaux me disent, seul atome résout la crise, mais moi, je n'y crois pas, car mon copain le physicien, voilà ce qu'il m'a expliqué. Le rendement du nucléaire, c'est pas bon, ça coûte trop cher. Une centrale dure pas longtemps, au grand maximum 15 ans. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire. J'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires.
radio m'a dit, c'est la seule source d'énergie, mais ça, ça me fait marrer, car mon copain Michel m'a dit, il y a bien d'autres énergies, le soleil et puis le vent, les marées, les volcans. Si on voulait bien les mettre au point, ce serait de l'énergie sans fin. J'ai le blues de l'atmosphère, j'ai le blues héréditaire, j'ai le blues spectaculaire, le blues des centrales nucléaires. Ouais.
Steve Waring, c'est une chanson des années 70. Et Steve Waring était d'abord, c'est un disque qui est très rare, hein, ce disque-là, parce que Waring est connu pour avoir fait beaucoup des chansons pour enfants, mais là, c'était pas un
disque. La baleine bleue.
C'était voilà, et, qui était très bien d'ailleurs. Hein,
ah, mais, très bien.
Mais ce disque-là n'était pas destiné au jeune public, et donc peu de gens le connaissent. Voilà. Donc Steve Waring. Les centrales nucléaires et je trouve donc je retrouve mes deux invités Serge et Nicolas. J'ai vu dans le Monde Libertaire que le collectif Comité Central organise depuis quelques mois une tournée sur le thème réveiller les esprits anti-nucléaires autour de son film Notre Terre mourra proprement. Cet objectif rejoint celui de la campagne antinucléaire de la Fédération anarchiste. Et Serge, tu signes cet article intitulé « Non au nucléaire et à son monde ». On revient toujours à cette question, évidemment. Dans ce papier, après un rappel historique de la lutte antinucléaire en France, tu nous aides à comprendre les raisons de la faiblesse de ce mouvement antinucléaire. C'est grave ?
Oui, c'est grave, et je pense qu'au niveau du pouvoir, ils s'en sont rendus compte. C'est pour ça qu'ils veulent passer un maximum de choses en ce moment, relancer soi-disant le nucléaire. Enfin, en tout cas, il y aura du fric à gagner, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'étais un peu motivé par les contacts qu'on a pu avoir, et d'ailleurs Nicolas peut en parler, avec le comité central. On espère d'ailleurs qu'ils vont passer à Paris, on essaiera de faire quelque chose avec eux, peut-être en avril, ça on en parlera plus tard. Donc ça m'a donné envie d'accord, on dénonce évidemment le pouvoir, etc. Mais pourquoi le moment nucléaire que j'ai connu moi depuis le début et qui a été extrêmement intéressant dans la mesure où à l'époque les politicards ils en avaient rien à foutre. Enfin, je parle pas de ceux qui utilisaient le nucléaire, mais les opposants, même l'extrême gauche ou ça. Le PC était pour l'indépendance de la France. Donc c'est un mouvement qui a pu se développer à partir d'une action sur le terrain qui était quand même quelque chose d'important. Donc notamment par rapport à Malville qui a été justement le sommet, c'est pour ça que j'ai un peu détaillé un peu ce qui s'est passé à Malville en dehors de la mort de Victor Michalon. Il y a bien de choses à analyser. Le mouvement, c'était les comités Malville par exemple, les gens se sont politisés dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'à partir d'une contestation du nucléaire comme on peut expliquer largement effectivement dans le monde libertaire, on continuera à expliquer ce qu'il y a derrière. Et c'est ce que je crois que tu l'as dit d'ailleurs au début, c'est le monde que ça implique.
Ben oui,
voilà, et le monde policier, enfin tout.
En imaginant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident.
Ben voilà. Oui, c'est ça qui est. Mais c'est ça. Je veux dire, faut pas uniquement penser à l'accident, etc. C'est que dans le fonctionnement normal du nucléaire, c'est une société nucléarisée, c'est-à-dire une société militarisée, etc., etc. Et donc les gens prenaient de plus en plus conscience de ça. Bon. Et en plus, comme les politicards n'étaient pas là, donc c'était des fonctionnements, des comités assez horizontaux, les gens discutaient, etc., se politisaient naturellement. Quand il n'y a pas des politiques pour dire « moi j'ai la solution, suivez-moi ». Et le problème, c'est que y a un certain nombre d'organisations qui se sont rendues compte de ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a du monde là-dedans, on peut peut-être y aller voir. Et je ne vais pas donner de nom de telle ou telle organisation. notamment de certaines venant de l'extrême gauche, enfin, peu importe, ils se sont un peu infiltrés. Alors comment on s'infiltre dans un mouvement qui se crée, ben, enfin, tu le sais, quoi, mieux que moi.
Non, pas du tout, moi je ne sais pas.
On crée une coordination au niveau national et on envoie des gens là-dedans. Bon. Alors, ceci étant, il y avait des gens très bien à la
coordination. On appelle ça des délégués, non ?
Oui, mais voilà, ouais, voilà. Tu rigoles, des délégués, tu parles.
Ah, oui.
Donc, effectivement, il y avait un certain nombre de délégués, mais alors que ce qui se mettait en place avant, c'était un fédéralisme classique, c'est-à-dire qu'il y avait des associations locales qui échangeaient entre eux, qui faisaient éventuellement des choses en commun, régionalement ou pas, là, il y a eu une coordination nationale. Bien. Et cette coordination nationale, bon, peu importe les organisations qui étaient là-dedans, il y avait des gens très bien, hein, tout le monde n'était pas comme je l'ai décrit. Ils se sont dit, on va faire comme le Larzac, ça va marcher comme le Larzac, on va faire un truc pacifique, etc., etc., pour protester, bon, Clarémasville, je ne détaille pas, un chantier qui était en route, c'était important, etc. Donc, il y a eu, alors, l'idée qui a été lancée, bon, de créer là-bas des grandes marches, il y en avait 4 normalement au départ, comme je dis, voilà. Bon, je sais qu'à l'intérieur du comité, des comités, enfin moi j'ai un comité parisien, mais j'ai eu des échos d'ailleurs, on a dit attention, en face il y a l'État. Et l'État c'est quoi ? Localement, on l'a vu d'ailleurs pour les méga-bassines, c'est le préfet. Le préfet qui a été nommé, il avait fait ses classes à Alger. Attention. Donc il avait tout préparé, un peu comme un méga-bassine, mais à une échelle. Et les gens se sont fait, ça aurait pu être,
C'est pas lui qui avait déclaré « les Boches sont à nouveau sur le territoire français, nous allons les foutre dehors de la même manière ».
Nous, on avait des informations là-dessus. On avait dit, attention, si on va là-bas, il faut protéger les gens, il faut que ce soit bien organisé. Bon, alors j'explique un peu, je rentre pas dans les détails, je pense que les gens liront l'article, enfin, ça a été un bordel, pas possible, en plus il y a une flotte. Bon, enfin, c'était... Et en plus, c'était géographiquement, ben, Philippe m'a bien expliqué, puisqu'il y a la géographie, ben, les flics avaient tout organisé, quoi, pour faire, pour nasser les gens. Il n'y avait aucun contact, en plus, les gens entre eux. Enfin, c'était vraiment un bordel pas possible. Et quand on regarde bien, et notamment, il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits sur l'évolution du moment anti-nucléaire, ça a été le sommet, et à partir de là, alors, il y a eu les comités Malville, on critiquait plein de trucs... Enfin bon, ça a été le sommet, je détaille dans l'article, j'en dis pas tellement plus. Là, à l'antenne, je pense que ça donne un peu une envie, mais ça a été assez grave, parce que je pense que le mouvement anti-nucléaire était extrêmement fort à l'époque, avant, et après, il a commencé à faiblir. Bon, après, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la suite, mais je pense que ça a été une erreur. J'ai lu d'ailleurs, parmi des gens que je considère comme des gens honnêtes qui étaient à la coordination, ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur. Voilà. Mais je pense que l'erreur fondamentale, ça a été d'accepter que les politiques, qu'ils soient de gauche ou d'extrême gauche, viennent foutre la merde là-dedans. Enfin, plutôt rechercher, se faire de la pub.
Ouais.
Mais il y avait des gens honnêtes, hein. Attention, il n'y a pas que les politiciens.
Alors, Jean-Marc Royer nous dit dans son article dans Le Monde Libertaire, le mouvement anti-nucléaire des années 70 n'a pas qualifié le nucléaire de crime contre l'humanité, selon lui. C'est une des erreurs de ce mouvement.
Oui, enfin, je pense qu'il n'était pas... c'était pas la question qui se posait, en fait. Alors, effectivement, avec le recul, et Jean-Marc Royer ayant beaucoup travaillé là-dessus, effectivement, on peut dire que c'est un crime pour l'humanité, contre l'humanité. Je pense que ce qui sortait, c'était finalement une analyse de ce qu'est l'État dans un système nucléaire. Voilà. Mmh. Je pense qu'ils n'ont pas fait le lien. C'était pas... Enfin, ça se discutait pas, moi, à l'époque. Alors, je sais pas si on aurait changé.
En tout cas, c'était peut-être pas un point de vue majoritaire dans le mouvement.
Je pense pas, effectivement. Mmh. Je pense
Nicolas
pas. Oui, il y a quelque chose que j'ai découvert un peu en échangeant avec certains des auteurs, notamment ceux de la coordination antinucléaire sud-est, Jean Revest et d'autres, c'est que effectivement dans les années 70, il y a une opposition assez frontale et assez homogène au nucléaire, non au nucléaire. Et puis, petit à petit, au cours des années, il y a eu des sortes de scissions. C'est-à-dire que, par exemple, la coordination antinucléaire dit « arrêt du nucléaire ». C'est pas dans 10 ans, dans 5 ans, tout ça, on réfléchit. C'est « on arrête tout ». Là, c'est une position très tranchée. Et en revanche, il y a d'autres organisations qui sont parties sur un schéma qui était sortir du nucléaire. Donc, dès l'instant où on disait c'est pas tout de suite, ça veut dire oui, alors on va réfléchir. Puis voilà, à partir du moment où on dit effectivement, il faudrait sortir du nucléaire, mais la sortie, elle peut être dans 100 ans, quoi, enfin, ou jamais. Et donc, ça introduit des scissions entre différentes organisations qui ont été très, très dommageables. Et cette prise de position de sortir du nucléaire, ça introduit l'idée que finalement on pouvait vivre avec le nucléaire, que c'était fréquentable. Donc voilà, je pense qu'il y a une espèce de passage qui s'est fait comme ça. Il y aurait sans doute un historique de tout ça à faire, qui nous conduit aujourd'hui à considérer que finalement c'est une énergie finalement pas trop mauvaise, décarbonée et tout ça. Quoi.
Oui, juste un mot, 30 secondes, hein. Puisqu'il parle de sortie nucléaire, je ne rentre pas dans tous les détails. Enfin, en tout cas, il faut dire que dans un premier temps, la Fédération anarchiste, avec plein d'autres organisations, en faisait partie et on en est sorti de l'organisation du nucléaire. Et ce n'est pas pour rien. Bon, mais je n'ai pas le temps de développer pourquoi.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe actuellement alors sur ce mouvement anti-nucléaire ? Aujourd'hui, il en est où ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je sais pas, enfin Nicolas complétera puisqu'il a contacté les gens, en fait tous les gens qu'on a contactés, qu'on voit, sont des gens, c'est les noyaux de ce qui reste, c'est souvent des gens qui se sont bagarrés pendant très longtemps, y compris le comité central que tu as évoqué. Donc il y a des endroits où il y a des gens qui luttent clairement, mais d'abord, premièrement, dans les manifestations, heureusement, il y a beaucoup de cheveux blancs, malheureusement, il n'y a pas grand-chose d'autre. Bon, ça bouge, c'est un petit peu différent à Bure. C'est un petit peu différent à Bure. Donc, il y a des îlots comme ça, dans le sud-est, dans l'ouest, etc., qui sont sur des positions...
Parce qu'ils sont touchés, dans leur chair, quoi.
Oui, ils sont touchés dans leur chair. Ils le voient là, puis ils se sont bagarrés pendant longtemps, et puis c'est des gens... Je ne sais pas comment expliquer, mais aujourd'hui, quand on demande autour de nous au nucléaire, les gens, ils ne connaissent rien, quoi, la plupart. Alors qu'eux, ils ont acquis toute une connaissance réelle de nucléaire. Dans les gens qui ont fait les articles, là, par exemple, ou qui vont se retrouver à Marseille, ce n'est pas tous des ingénieurs, etc. C'est des gens qu'à travers leur lutte, ils se sont informés. Ils se sont informés et vraiment, ils se disent, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser passer une société comme ça se mettre en place, quoi. Et malheureusement, c'est relativement, même plus que majoritaire. Hein. Et la plupart des gens, là maintenant, ils ne voient absolument pas le lien avec le nucléaire, avec le militaire, enfin toutes les choses qui sont invoquées là-dessus. Bon, je repasse peut-être la parole à Nicolas pour compléter.
Il y a une chose, je pense, qui est intéressante à souligner, c'est que les luttes et les mobilisations importantes se font quand il y a un site qui est menacé, et c'est-à-dire que quand, voilà, pour X raisons, pour un site d'enfouissement, pour une centrale, ainsi de suite, on veut prendre un site au milieu naturel ou à la vie des gens, disons. Donc effectivement, les mobilisations les plus anciennes, enfin, de cette première période, Cresmalville ou Plogoff, ont abouti à des victoires, les sites ont été abandonnés, mais les gens se sont mobilisés parce qu'on voulait prendre des sites. L'association, enfin, le groupe comité central a produit un film, on en a parlé un petit peu, et en fait ils ont enregistré tous les gens qui ont lutté contre les différents projets d'enfouissement de l'ANDRA. Donc l'ANDRA, c'est le truc qui est à l'œuvre à Bure, et donc en fait, maintenant on connaît Bure, mais en fait il y a différents projets d'enfouissement un peu partout en France, et il y a eu des luttes plutôt, enfin, qui toutes jusque-là ont été victorieuses, luttes souvent de groupes de paysans, de gens locaux, mais à chaque fois on se mobilise parce qu'on intervient sur un endroit précis qui est très intime.
Mais c'était un peu, tout de même, dans les années 70, ça a aussi été un peu ça. La différence, c'est qu'il y avait plein de sites, j'allais dire presque en même temps. Ouais. Hein, mais là, les sites existent. Nous n'avons plus la nouveauté, n'est-ce pas ?
C'est pas ça, c'est que ce que le pouvoir a compris, c'est que là, alors il y a effectivement le cas un peu particulier de Flamanville, qui est finalement une annexe de l'AG, enfin c'est un gros bazar fait là-haut. Énorme, voilà. Mais en fait, les constructions nouvelles qui sont projetées, c'est sur des sites existants. Donc, je veux dire, à Penly, il y a déjà une centrale. Donc, ouais. aller se mobiliser, c'est-à-dire rentrer dans le site de la centrale, dire non, 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 on ne veut pas, là, ça ne va pas être facile. Tricastin, on en parlait, c'est l'autre, le deuxième site, pareil, c'est un énorme site qui est déjà totalement nucléarisé, où personne n'entrera, enfin, ça va être compliqué, je ne sais pas quel est le troisième projet, enfin voilà, c'est en tout cas sur des sites existants.
Et oui.
Donc voilà, Bure, on se mobilise parce que c'est un lieu physique où on peut encore, qu'on peut défendre, en fait. Mais sinon, c'est-à-dire que Penly, il faut l'attaquer. Et donc là, le pouvoir l'a bien compris. C'est-à-dire qu'ils vont faire des nouveaux trucs dans des lieux qui sont en gros déjà à eux, quoi.
Mais alors, qu'est-ce qui nous reste comme arme ? Parce que là, on voit bien avec la lutte contre la réforme des retraites qu'il ne suffit pas d'avancer avec des arguments.
Moi, je crois qu'il y a une arme très simple. Aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on défende, d'ailleurs c'est le cas relativement, ceux qui bloquent à Bure, parce que bloquer le Bure, enfin, par rapport à l'action de l'État, bloquer l'action de l'État à Bure, ça bloque toute la filière nucléaire, parce qu'ils savent plus quoi, ils sont complètement débordés par les déchets, ils savent plus quoi en faire. À La Hague, ça déborde de partout.
Il y a longtemps.
Les piscines de centrales, etc. Ouais. Et donc, Bure, c'est, il faut que ça marche, quoi. Si ça marche pas, ils sont coincés. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé dans les villages, on parle de Bure, mais il y a plusieurs villages autour, il y a plus de gendarmes que de personnes qui vivent là. C'est vraiment un État policier complet. Là-bas dans la région, ils ont accusation de malfaiteurs et tout ça, ça leur a permis d'espionner, de faire des choses absolument, enfin, je veux pas dire incroyables dans cette démocrature, mais absolument qu'on n'accepterait même plus. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on soutienne à fond ceux qui se battent sur Bure, parce qu'ils sont installés là-bas alors qu'il y a très peu d'habitants. C'était une zone, on leur a dit d'ailleurs, on s'est installé chez vous parce que vous n'avez rien
de toute façon.
Voilà. Donc, je pense, bon, c'est peut-être pas la solution, mais je pense qu'il faut absolument. Et c'est pour ça qu'il.
C'est marrant parce que vous n'avez rien, c'est pas grave ici, il n'y a rien. C'était l'argument pour le camp militaire du Larzac.
Oui, hein. absolument.
Rien ne pousse là-bas.
C'était le cas du Tricastin, c'était le cas de la.
Voilà, c'est ça.
C'est un peu ça. Ce que dit Serge est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, empêcher le développement de Bure, arriver à bloquer Bure, c'est d'une certaine façon empêcher le développement de l'industrie elle-même. Il y a un autre thème qui, je pense, faut faire émerger parce qu'il est très minoré. C'est-à-dire quand on pense nucléaire, on pense au grand accident. On pense à la bombe, à l'explosion, voilà. Et donc on se dit, bah voilà, ça fait 40, 50 ans, là on vit à côté, finalement ça se passe pas trop mal, bon, voilà. Voilà. Et en revanche, il y a tout.
Quelques cancers de la thyroïde.
Mais
chez
encore, est-ce que c'est vraiment prouvé?
Oui, voilà,
peut-être qu'il buvait un peu le monsieur, mais il fumait des cigarettes, vous imaginez tout ça. Et donc, il y a tout un discours et une information à faire sur ce qu'on appelle les faibles doses. C'est-à-dire que le discours officiel va dire bon, les faibles doses, ça n'a aucune importance, on absorbe quelques millisieverts de temps en temps, c'est pas très grave, tout ça. Et en fait, et donc la population ne se sent pas du tout menacée, en fait. Alors qu'il y a des vraies menaces, il y a des vraies études à faire sur l'apparition de tel ou tel type de cancer dans les zones proches des centrales, ainsi de suite. Et ça, c'est pas fait.
Si, il y a un petit travail qui est fait justement autour de Tchernobyl par une association qu'on a reçue et qui sera dans le bouquin qu'on va faire, qui est en train d'être fait. Ça, effectivement, c'est essentiel. Depuis le début, les faibles doses sont. Ça n'existe pas.
Mais on les mesure à Tchernobyl maintenant que l'accident a eu lieu.
Trois générations. Voilà. Trois générations à Tchernobyl, pas à Tchernobyl même, mais dans une zone, y compris de plusieurs centaines de kilomètres, la moitié des enfants, à 7-8 ans, ils sont tous à l'hôpital. Ils sont comme des vieux, ils ont des problèmes. Ça, on n'en parle pas. Jankovici, toi qui as lu la BD, il en parle
pas. Non, pas du tout. De toute façon, ce qui est grave pour lui à Tchernobyl, c'est le bruit que ça a fait.
Ça a fait peur aux gens.
Ça a fait peur aux gens, et ça, c'est pour lui, c'est ça le pire. Oui.
Non, mais ça, Nicolas, il a tout à fait raison. Et il y a quand même des gens qui font du travail. Il y a notamment Anité Bomoni, qui va faire aussi une contribution, qui a travaillé avec des gens, notamment ceux qui travaillent dans le nucléaire, parce que dans le nucléaire, évidemment, on met des immigrés, on ne va pas mettre des statuts EDF, etc.
Voilà, oui.
On les renvoie chez eux dès qu'ils ont une trondeuse. Donc il y a quand même des choses qui sont faites, mais qu'ils n'ont pas du tout transmises, et puis évidemment, qui ne sont pas... Alors, dernière chose que va dire, peut-être les auditeurs ne savent pas, on dit, mais quand même, il y a l'OMS. Bah, l'OMS a signé un accord, je crois que c'est dit, je ne sais pas si c'est dit dans un des articles, en tout cas dans un des textes que j'ai lu, je ne sais plus si c'est un des articles. L'OMS a signé, je ne sais plus en quelle année, un accord avec l'AEIA sur tout ce qui concerne le nucléaire, la santé du nucléaire. C'est l'AEIA qui décide, l'OMS doit fermer sa gueule. Et ça a été dénoncé par Fernex, qui travaillait à l'OMS, qui est décédé récemment. Donc ça, c'est très important, ce qu'a souligné Nicolas. Parce que...
Et là, moi j'ai entendu parler il y a peu de temps de la fusion de deux institutions de surveillance du nucléaire. C'est quoi cette histoire? On casse un thermomètre ou...
Non, c'est pas ça.
On change de système métrique.
Le problème, si tu veux, les deux institutions, en gros, l'ASN, c'est ceux qui communiquent avec l'État. Voilà. Mais ils n'ont pas vraiment de labo. Pour s'appuyer, il faut avoir des éléments, des laboratoires, des scientifiques, etc. C'est l'IRSN qui leur fournit le résultat. Alors, il y a un lien direct entre eux. Le problème, c'est que l'IRSN, dans le tas, il faut qu'ils aient le temps de faire tout ça. Ça prend du temps. Ça prend trop de temps, parce qu'il faut accélérer, bien entendu. Et donc, ils ont dit, d'une part, on va en filer une partie à l'ASN, on va regrouper tout ça, parce que l'ASN, on les connaît, évidemment, c'est des copains. Bon. D'autre part, il y en a qu'on va envoyer au CEA. Et puis il y en a les troisièmes, je ne sais plus encore. Oui. Donc c'est pour gagner du temps. Voilà. Ceci étant, connaissant très bien la CRIRAD, qui lui est un organisme indépendant, il a dit bon, c'est vraiment pas bien, mais l'URSN, ce n'est pas des gauchistes. Hein.
Ouais, bon, voilà. Vous me dites un mot sur le bouquin que vous préparez?
Nicolas.
Allez. Question piège.
Alors, non, pas question piège, mais. Alors il se trouve que. Quelques-uns de Serge, Monique et puis le camarade Philippe du côté de Saint-Étienne. Nous avons travaillé l'année passée sur un livre qui a été publié par les éditions du Monde Libertaire, qui était consacré à la guerre en Ukraine. Ça s'appelait Géopolitique des Empires. Donc le projet était de sortir un ouvrage assez rapide à éditer, bon marché, donc accessible à tout le monde, qui allait essayer d'expliquer un peu les enjeux, le contexte un peu plus général et ancien de cette histoire. Et donc, ça s'est sorti sous la signature de je suis toujours sur liaison, sur réseau Macno, réseau Macno, Macno, je l'avais, voilà. Et donc, dans cette même optique, on s'est dit que vu l'engagement de la Fédération anarchiste sur le nucléaire, ça serait intéressant de fournir le même genre de travail sur le nucléaire. Et donc, on a sollicité un certain nombre des auteurs qui sont déjà, qu'on a déjà évoqués, soit pour Marseille, soit pour les articles dans le Monde Libertaire.
Ou les deux.
ou les trois. Il y a des gens qu'on a beaucoup sollicités. Ouais. Jean-Marc Royer, Thierry Ribaud, Yves Lenoir, Annie Thébaumoni, Philippe Pelletier. Et puis, deux personnes que j'oublie. Voilà, donc il y a 6 ou 7 auteurs qu'on a sollicités pour ce petit livre, qu'on espère voir sortir rapidement.
On a toutes les contributions. Hein.
Voilà, et donc pour donner là une information un peu plus complète que ce qu'on peut faire dans un article ou simplement dans une conférence, et avoir un outil qui va pouvoir être diffusé largement à bon marché dans toutes les directions possibles.
Oui. Juste 10 secondes. Je tiens quand même à dire que tous les gens qu'on a sollicités, évidemment, ont des choses à dire depuis longtemps qu'on connaît. Et ils ont vraiment participé avec enthousiasme. Ils étaient très contents de participer à travers ce livre, à la campagne antinucléaire de la Fédération anarchiste, puisque ce qu'on leur a dit. Et j'étais assez content de leur réaction. Voilà.
Bon, en tout cas, un Monde Libertaire que j'ai lu pour vous, pour préparer cette émission. Et donc, je peux vous dire, n'y ayant pas participé, n'ayant aucun intérêt sur les ventes du Monde Libertaire, que ce numéro est intéressant. Il faut absolument l'acheter. Si vous vous demandez, mais c'est quoi le problème avec le nucléaire? Eh bien, achetez donc le Monde Libertaire. Le moment est venu de vous proposer une exclusivité. Radio Libertaire 89.4, car dans les années 70, et oui, dans les années 70, nos équipes sont allées enregistrer une réunion publique tenue à l'occasion d'un projet de construction d'une centrale nucléaire.
Mesdames, messieurs, je vous ai réunis ce soir dans cette salle des fêtes bien sympathique pour vous annoncer en tant que représentant de l'EDF une nouvelle qui va allumer sur vos visages un sourire de contentement, puisque je ménage mes effets. L'État va faire construire une centrale nucléaire près de votre commune. Je suis, croyez-moi, sensible à l'approbation que vous manifestez par votre silence explosif. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce que la France est en train de faire dans le domaine nucléaire, aucune bête ne l'aurait fait. C'est ici, près de votre commune, dans ce paysage que d'Agrippa d'Aubigné chante à temps, que nous allons installer une centrale dont la puissance, tenez-vous bien, est égale à 300 bombes atomiques, dont une seule pourrait anéantir Paris. Non, rassurez-vous, lorsque je parle de bombes atomiques, c'est beaucoup moins pour vous effrayer que pour vous faire apprécier l'importance que votre bled, que votre chef-lieu de canton va prendre aux yeux de l'histoire. En effet, qui connaissait Hiroshima en 1935 ? Je vois d'ici les révolutionnaires chevelus, drogués et irresponsables, qui feraient mieux de laver la poutre de leur jardin avant de contester la pierre que j'ai dans l'œil. Et réciproquement. Ils prétendent qu'un risque d'explosion est toujours possible, ce à quoi je leur réponds que tout est possible, mais que par contre, rien n'est impossible, et que par conséquent, une explosion possible est impossible. Pour deux raisons. La première, c'est que ça n'est jamais arrivé. La seconde, c'est que ça n'arrivera jamais. Voyez-vous, l'important est de raisonner scientifiquement. Et dans le domaine nucléaire, plus que dans tout autre, l'argument scientifique est basé sur la foi. La foi qui en est la substantifique moelle. Lorsque l'on a inventé le taille-crayon, il s'est trouvé d'aimables zozos alarmistes pour dire « Ça ne vaut pas un bon couteau. Ça va faire du bruit. Ça va polluer. » Et puis tout le monde s'est mis au taille-crayon. Eh bien, une centrale nucléaire n'est pas autre chose qu'un taille-crayon. Plus sophistiqué. Plus complexe. Un petit peu plus cher. Mais s'il fallait écouter les gens qui contestent le nucléaire, on en serait toujours à tailler nos couteaux avec un crayon. Non. Voyez-vous, ceux qui ne croient pas à l'énergie nucléaire en 1976 sont ceux qui ne croyaient pas à la ligne Maginot en 1936. Je disais tout à l'heure qu'une explosion nucléaire était impossible, et c'est si vrai qu'on ne dit pas une explosion nucléaire, on dit en langage mondain, donc scientifique, on dit une... Hein? On dit une... Vous voulez pas savoir comment vous allez crever? Qui est-ce que... Hein? Une excursion. Bien, un connaisseur. Sortez. Dans le cas d'une excursion nucléaire, Il va de soi que les populations environnantes seraient gênées. Mais pour vous éviter la peine de gêner d'autres populations intactes, l'armée serait chargée de vous protéger en empêchant les populations intactes de venir vous contaminer. C'est chier, hein? On élèverait tout autour de votre département des barrières protectrices, électrifiées, autant servir sur place. Avec quelques miradors négligemment jetés au gré de la géographie, ce qui donnerait du travail aux populations gênées. Vous voyez l'aspect social, qu'on n'est pas des bœufs. Qu'un drogué, un chevelu ou un irresponsable tente de s'échapper et aussitôt l'armée le neutralise au complexe mitrailleur. Que ferez-vous des déchets radioactifs? Je relis la question. Hein. Que ferez-vous des déchets radioactifs? Ah bon. Ah bah oui. Eh bien, je réponds que cette question est malhonnête. Elle est mal posée. Et je ne tomberai pas dans le piège des réponses faciles qui mènent à la démagogie et à l'anti-France. Il faut raisonner en termes de progrès et ne pas s'arrêter à des problèmes d'intendance, car l'État ne s'enlisera pas dans l'ornière de la vulgarité. Voyez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes à l'aube d'une ère de bonheur, et j'allais dire de rentabilité. Contre le nucléaire, les arguments ne manquent pas, et bien tant mieux. Croyez-vous que si nous étions menacés par l'apocalypse annoncée par les écologistes mal rasés, Dieu aurait permis que s'installe chez nous le siège de l'atome? Hein? Mais en fait, l'atome dans son infiniment petit, mais c'est Dieu, nom de Dieu. Dans son infiniment grand, j'en déduis qu'à l'avenir, toutes nos installations électriques seront directement branchées sur Dieu.
Alléluia. Voilà, c'était donc Patrick Fonte, son sketch sur les centrales nucléaires. Rien n'a changé.
Absolument.
Hein, tout est dit. Bon. Donc, voilà, 76, d'après Fonte.
On a juste vu apparaître le Janko Messi.
Voilà. La différence, c'est... On revient toujours à ce sauveur de l'humanité, qui est ce cher Jean-Claude, car je l'appelle Jean-Claude. Maintenant. Voilà. Alors, je voulais juste revenir 5 minutes, parce que justement, après ce sketch et après Jean Covici, c'est ce papier de Thierry Ribaud, qui sera à Marseille d'ailleurs.
Lui aussi.
Lui aussi. À propos de la résilience à Fukushima, il nous parle d'un type qui s'appelle Satoru Miura. Génial. Responsable de la mitigation des désastres au sein du FUR. Alors, je sais pas, quelqu'un sait ce qu'est le FUR?
Non.
Eh bien, c'est le Future Center for Regional Revitalization. Voilà, donc, vous voyez, c'est un truc pour nous revitaliser au cas où. Voilà. Et donc, ce monsieur Miura nous dit que, afin de se préparer à la prochaine catastrophe, les acteurs doivent intégrer une culture de la conscience du désastre. Élaborer une capacité à y faire face requiert la mise en place de bonnes pratiques, d'un programme éducatif développant, une approche soft et de travailler sur les comportements. Et à la remarque adressée à notre interlocuteur au cours d'un entretien, nous dit l'article, selon laquelle nous sommes actuellement dans le désastre et qu'il ne s'agit donc pas de se préparer au prochain, mais d'essayer de faire face aux conséquences de celui-ci, Miura répond, reconsidérant la voiture de ses ambitions. Je ne peux prévoir ce qui arrivera avec le désastre présent. Je ne peux pas fournir aux gens un plan concret d'évacuation. Autrement dit, ils doivent sauver leur vie par eux-mêmes. C'est pourquoi il faut connaître le niveau de radioactivité. Si l'on compte sur les autres et sur le gouvernement, on risque d'avoir une expérience malheureuse. Voilà. Des commentaires, chers amis?
Je crois que ça se passe, ce commentaire.
Voilà. Tout est dit.
Tout est dit. Alors, en marge du... Ah. Enfin, en marge... Oui, tu voulais dire
Peut-être pour rappeler Marseille, donc à la fin de la semaine, très rapidement, le 31 mars, ça commencera donc à la DAR, Centre Social Autogéré, 127 rue d'Aubagne, par la projection d'un film de Kenichi Watanabe qui s'appelle « Notre ami l'atome ». Je crains qu'il n'y ait un brin d'ironie dans le titre. Et puis effectivement, les deux jours suivants, ça commencera pour chaque demi-journée à 14h, le samedi et le dimanche. Et donc il y aura toute une série d'invités dont nous avons cité les noms rapidement. Voilà, Philippe Pelletier, Jean Revestre, Antoine Calandra,
Thierry Ribaud,
Jean-Marc Royer et Gilbert Talent.
Antoine Calandra et voilà. Avec Jean Revestre de la coordination sud-est.
Il y aura une personne...
un chef de Bure en principe.
Voilà, une personne qui viendra de Bure pour raconter un peu la situation là-bas.
D'accord, parfait. Alors, en marge du nucléaire et de ce dossier du monde libertaire, on m'a apporté un communiqué à vous lire suite aux manifestations qui ont eu lieu à Sainte-Soline. Un communiqué de l'Inter-Observatoire dont la LDH est membre. Ce document est publié à titre de première synthèse des faits les plus saillants relevés par les équipes d'observation. Le rapport d'observation complet fera l'objet d'une publication ultérieure. Du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars, 22 membres des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières du 93, de Gironde, de Paris, du Poitou-Charente et de Toulouse étaient présents pour observer le maintien de l'ordre sur la zone de Sainte-Oline dans le cadre des mobilisations contre les méga-bassines. Dès nos premières observations, le vendredi, nous avons constaté le bouclage ultra-sécuritaire de la zone avec des barrages routiers assortis de contrôles d'identité et de fouilles de véhicules généralisés, ainsi que la présence d'un camion doté d'un dispositif de renseignement. Ces opérations se sont poursuivies jusqu'au dimanche. 6 équipes d'observateurs étaient présentes sur le terrain de la manifestation samedi 25 mars. Dès le départ des cortèges depuis Vanzay jusqu'à leur retour, ceux-ci ont été surveillés de manière constante par 1 à 2 hélicoptères. Avant l'arrivée des manifestants sur le site de la bassine de Sainte-Soline, des binômes de gendarmes armés et coiffés de casques de moto montés sur 20 quads sont venus à leur contact. Les cortèges ont dès lors fait l'objet de tirs massifs et indiscriminés au gaz lacrymogène, créant une mise en tension importante. Dès l'arrivée des cortèges sur le site de la bassine, les gendarmes leur ont tiré dessus avec des armes relevant des matériels de guerre, tirs de grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, grenades explosives de type GM2L et GENL, y compris des tirs de LBD 40. Nous avons observé des tirs au LBD 40 depuis les quads en mouvement. Des grenades ont été envoyées très loin et de manière indiscriminée dans les cortèges, à l'aide de lanceurs et de dispositifs de propulsion à retard. Les détonations très rapprochées de grenades explosives étaient régulièrement suivies de cris d'appel au secours pour assistance médicale. Certaines grenades lancées n'ayant pas explosé, le terrain était miné, donnant lieu à des explosions différées. A été également observé l'usage de 2 canons à eau. Par ailleurs, nous avons observé la présence de fusils FAMAS, ainsi qu'au moins un fusil à type produit marquant, codé EMEK-EMF-100-PMC. Le dispositif a mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place, occasionnant de très nombreuses blessures, souvent graves, allant même jusqu'à plusieurs urgences absolues. Lorsque les élus ont fait une chaîne humaine autour des blessés pour les protéger et permettre leur évacuation, des tirs de grenades lacrymogènes ont été observés dans leur direction, les contraignant à reculer. À ce moment, en contradiction avec ce que prétend la préfète des Deux-Sèvres, rien ne justifiait l'utilisation de la force à l'encontre de ces personnes. En particulier, nous n'avons observé aucun tir d'engin incendiaire au niveau de cette zone. Nous avons constaté plusieurs cas d'entrave par les forces de l'ordre à l'intervention des secours, tant SAMU que pompiers. Le SAMU a indiqué ne pouvoir intervenir pour secourir un blessé en état d'urgence vitale, dès lors que le commandement avait donné l'ordre de ne pas le faire, dans une conversation téléphonique à laquelle ont assisté trois avocats de la Ligue des droits de l'homme. Or, nous avons observé que la zone où se trouvait ce blessé était totalement calme depuis plusieurs dizaines de minutes. Lorsque cette indication a été donnée, cette zone se situait à 200 mètres au nord-ouest du dispositif de gendarmerie entourant la bassine et à 500 mètres de l'ensemble des manifestants. Comme souvent, les forces de l'ordre étaient difficilement identifiables. Nous avons constaté la dissimulation de visage par des cagoules combinées à l'absence de rios visibles. En amont des observations, le 22 mars 2023, la préfète des Deux-Sèvres avait notifié à la LDH que les observateurs et observatrices présents sur les lieux seraient assimilés à des personnes manifestantes et devraient se conformer aux ordres de dispersion, leur déniant la protection que leur reconnaît le droit international et en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État. Le matériel d'observation d'une équipe a été confisqué. De manière générale, nous avons constaté un usage immodéré et indiscriminé de la force sur l'ensemble des personnes présentes sur les lieux, avec un objectif clair, empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. Au regard de la gravité de la situation et compte tenu des observations menées ces derniers jours, un rapport d'analyse complet et détaillé sera produit ultérieurement le 26 mars 2023. Générique. Nous voici à la fin de ce tour du monde libertaire sur Radio Libertaire 89.4. On se retrouve le lundi 24 avril, si tout va bien, à 18h, sur cette radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, de la glorieuse Fédération anarchiste. N'oubliez pas, les Marseillais, c'est ce week-end à la DAR 127 rue d'Aubagne contre le nucléaire, et à Rouen, le 8 à la Masse 22 bis rue Dumont-Durville. Merci à Serge, Monique et Nicolas, et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être et de rester à l'écoute. Bye bye!
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue.
Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette.
La joie nous guette, c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête?
Il y a des noisettes dans ce macreux.
Il y a des raisins, des rouges, des blancs,
des bleus.
Les papillons s'en vont par deux.
Et le mille pattes met ses chaussettes.
Les alouettes sont des aveux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
Qu'est-ce qu'on attend?
Les parapluies restent chez eux.
Les cannes s'en vont
au bal Mahuzette.
Levez la tête,
les amoureux.
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?
Qu'est-ce qu'on attend?